Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde, le grand livre radiophonique où l'on écoute le monde changer. Nos deux premières destinations seront européennes, la Slovénie d'abord, où depuis mi-avril, tous les vendredis, des Slovènes manifestent contre la corruption et leur Premier ministre. Et puis en Hongrie, nouveau bras de fer entre le pouvoir et le monde de l'enseignement et de la culture. La très ancienne faculté de théâtre et de cinéma est occupée par les étudiants et les profs. On fera un point sur l'état de droit mis à mal dans certains pays de l'Union. Je vous emmènerai en Thaïlande. Là aussi, la jeunesse est en ébullition. Elle réclame de nouvelles élections et un changement profond des valeurs qui fondent la société. On ira enfin flâner à Istanbul, ville merveilleuse, mais où les marteaux-piqueurs s'en prennent un peu trop souvent aux bâtiments historiques et où les anciennes églises sont transformées en mosquées. Le patrimoine turc est finalement un sujet très politique. Les carnets du monde sont ouverts. Dans un tout petit instant, on prend la direction de Ljubljana.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
C'est un petit pays dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines pour ses champions cyclistes. Mais on connaît peu sa situation politique qui est pourtant explosive. Depuis le 17 avril, tous les vendredis, des milliers de Slovènes manifestent dans les rues de la capitale Ljubljana pour exprimer leur opposition au Premier ministre Janez Janša. Ils dénoncent la corruption et les dérives autoritaires d'un homme revenu au pouvoir à la mi-mars pour la troisième fois depuis l'indépendance. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Sophie.
Vous revenez de Slovénie, vous avez suivi ces cortèges. On va s'y rendre avec vous dans un petit instant, mais d'abord expliquez-nous qui est ce Janez Janša qui suscite autant de colère.
Eh bien, c'est le chef du Parti démocratique slovène, le principal parti de droite en Slovénie. Il est donc Premier ministre, vous l'avez dit, depuis le mois de mars, mais surtout connu pour plusieurs scandales de corruption qui l'ont déjà poussé deux fois à quitter le pouvoir. D'abord en 2008, quand des journalistes révèlent son implication dans une gigantesque affaire, 21 millions d'euros détournés par plusieurs responsables dans une grosse commande d'armement pour l'armée slovène. Et puis en 2013, une autre affaire de corruption a fait tomber son gouvernement. Janša a passé 6 mois en prison.
Ah oui.
2014, mais la Cour constitutionnelle a cassé sa condamnation. Toujours est-il que de nombreux partis politiques ont juré à l'époque qu'ils ne s'allieraient plus jamais avec lui au Parlement. Mais surprise, en janvier dernier, le gouvernement de gauche tombe sur fond d'échec à réformer le système de santé. Et avant même que des élections anticipées n'aient lieu, deux partis centristes retournent leur veste. Ils s'allient avec Janša et lui permettent de diriger une coalition. C'est donc comme ça qu'il vient de retrouver le pouvoir sans élection, ce qui met hors d'eux de très nombreux Slovènes.
Et depuis, de nouveaux scandales ont fait surface, d'où ces manifestations. Tous les vendredis soirs, depuis le 17 avril, donc depuis plus de 5 mois, dans les rues de Ljubljana. Théo, vous étiez dans l'un de ces cortèges la semaine dernière. On écoute votre reportage.
À bas le janšisme, le gouvernement doit tomber. 23 semaines que ce slogan résonne chaque vendredi à 19h tapante devant le Parlement slovène à Ljubljana. Au son des sifflets, des cornes de brume, Gino, retraité, ne manque aucun de ces rendez-vous.
Je ne suis pas content avec notre gouvernement. Il est corrompu totalement.
Le retour au pouvoir de Janez Janša et sa gestion de la crise sanitaire ont eu un effet immédiat, dit-il. Le retour aussi des affaires.
Pendant le début de cette crise de Covid, ils ont choisi des entreprises pour emporter les masques qui n'ont pas d'expérience en la matière. Et ils ont acheté des masques plus chers que ça doit être normal. Ce sont des entreprises où les directeurs sont les amis avec le ministre d'économie.
D'étranges marchés publics, en effet, révélés par la télévision nationale et qui ont envoyé le dit ministre en garde à vue pour une journée.
Oui, seulement pour un jour, oui. Et puis il était lâché de prison.
Et aujourd'hui, il est toujours au gouvernement.
Oui. C'est pourquoi nous sommes ici, parce que c'est pas normal.
C'est indiscret de vous demander quel âge vous avez.
J'ai 69.
Est-ce que vous aviez déjà manifesté contre le pouvoir en place?
Jamais, c'est la première fois, parce que je crains de fascisme.
La peur d'une dérive autoritaire dénoncée partout dans le cortège, comme sur ces pancartes aux croix gammées barrées d'un trait rouge que l'on voit brandi. Car ce troisième mandat de Janez Janša s'accompagne aussi de recettes directement empruntées à son voisin hongrois, Viktor Orban. Saillies violentes contre les médias qui enquêtent sur ses finances, tweets vengeurs visant parfois personnellement des journalistes. Des campagnes menées aussi par sa chaîne de télévision favorite Nova 24, financée par des proches de Viktor Orban. Elle s'en est prise notamment au journaliste d'investigation Blaž Zgaga après ses questions posées sur la légalité de certains décrets.
Les médias pro-gouvernement ont commencé à publier tous les jours des articles pour me salir, souvent avec ma photo. Et après ça, j'ai eu des menaces, comme quoi il fallait m'abattre. Des menaces de mort. J'avais peur, donc je vivais reclus dans mon appartement. Et un jour, je suis sorti une demi-heure pour faire des courses. Et j'ai été cambriolé. Ça vous montre comment ils essaient de nous faire peur pour qu'on arrête de se battre. Mais si on arrête, c'est la fin de la démocratie, la fin de la presse libre.
De quoi faire descendre pour la première fois dans la rue la jeunesse slovène, outrée par la volte-face des partis centristes qui ont permis à Janša de former à nouveau une coalition au mois de mars. Ils ont trahi le peuple, ils ont trahi leurs électeurs. Il nous faut de nouvelles élections, s'exclame Andrzej, étudiant en médecine, sous le regard approbateur d'Andrea. On ne les avait pas vus, les jeunes, lors des dernières manifestations en 2013, déjà contre la corruption d'un gouvernement Janša, dit cette retraitée. Ils ont enfin compris que quelque chose devait changer. Mais à voir les drapeaux arc-en-ciel, les pancartes rouges et noires, les colliers de fleurs, on prend aussi conscience de l'attelage très divers de ces contestataires, partisans socialistes, anticapitalistes, militants LGBT ou écologistes comme
Andrzej. Ils détricotent les lois déjà en place pour que les promoteurs puissent monter des projets sans écouter les experts de l'environnement.
Il semble bien difficile de dégager un objectif rassembleur pour l'après, une tête au mouvement, une porte de sortie. C'est ce que déplore Vita, auto-entrepreneuse, pancarte Janša dehors à la main.
J'aimerais juste qu'on arrive à se mettre d'accord sur une feuille de route commune, parce que pour l'instant on proteste, c'est sûr, mais tout va bien pour Janša. On n'a pas de but commun. S'il y avait des élections aujourd'hui, on n'aurait rien de bon à choisir. Ce sont toujours les mêmes. Donc on a besoin d'autre chose, d'un peu d'air frais.
Et ce n'est pas la récente victoire d'un jeune coureur slovène sur le Tour de France, dit-elle, qui suffira à nous faire respirer. À Ljubljana, Théo Manval, Europe 1.
Et on est toujours avec Théo Manval en studio avec nous. Théo, comment on explique d'abord cette volte-face des partis centristes slovènes qui a permis à Janez Janša de se maintenir au pouvoir ?
Eh bien, certains manifestants estiment que c'est tout simplement l'avidité du pouvoir, hein, l'envie de garder leur siège au Parlement. Ouais. C'est vrai que ces partis centristes sont tombés tout en bas des intentions de vote, donc ils n'ont pas intérêt à de nouvelles élections, clairement. Mais il ne faut pas occulter non plus le soutien assez large dont bénéficie encore Janša, vraiment, hein, dans les zones notamment les plus rurales, sur ces thèmes de prédilection. Un petit peu comme Viktor Orban en Hongrie, il a séduit beaucoup sur le nationalisme, la défense de la civilisation slovène face à l'afflux de migrants en 2015. Et puis, il faut le dire aussi, il profite de l'incapacité des autres partis à répondre aux attentes de la population. Le précédent gouvernement a totalement échoué à réformer le système de santé. Donc, beaucoup de Slovènes, comme cette retraitée que j'ai rencontrée à Terzin, au nord de Ljubljana, beaucoup de Slovènes voient en lui le seul dirigeant encore capable de mener la barque.
C'est pas bien ce qu'ils font, ces manifestations. Les jeunes pensent toujours qu'on doit tout leur donner. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire, diriger un État. On a besoin de gens sages au pouvoir, pas des premiers venus. Janša, c'est un sage à sa manière. Il y en a tellement qui sont contre lui, mais personne d'assez compétent. On a besoin de gens compétents.
Et si les élections avaient lieu ce dimanche, Sophie, c'est encore le parti de Janez Janša qui arriverait en tête, 22% des voix devant une opposition extrêmement morcelée. Donc oui, la population se mobilise, mais pour l'instant, personne n'est capable de fédérer cette contestation.
Ouais, contestation qui dure depuis plus de 5 mois, je le rappelle. Merci beaucoup Théo pour nous avoir emmenés au cœur de ces manifs en Slovénie.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
En Hongrie, ces derniers temps, c'est contre la mainmise du pouvoir sur l'enseignement et la culture que certains se mobilisent. Étudiants et professeurs de la très ancienne et prestigieuse École d'art dramatique et cinématographique de Budapest occupent les locaux depuis le 1er septembre. Ils en ont barricadé l'entrée avec du ruban de chantier rouge et blanc pour dénoncer la mise sous tutelle de leur école par le pouvoir, en particulier la nomination cet été d'un metteur en scène ultranationaliste, un fidèle du Premier ministre Viktor Orban, qui a commencé par supprimer l'autonomie de l'école. Jeudi, ils ont organisé une courte grève symbolique. Joël Le Pavou y était pour Europe 1.
Sur la terrasse de l'école de théâtre et de cinéma de Budapest, les enseignants font face à la foule en contrebas. Ce jeudi, Gyurgyu Korshoy, professeur d'histoire du théâtre, et ses collègues ont décidé de débrayer deux heures afin d'envoyer un message clair au pouvoir.
Nous avons voulu mener des négociations avec le ministère pour arranger des affaires. Il n'y avait absolument pas de réponse à ces initiatives. Si le gouvernement ne réagit pas jusqu'au 1er octobre, il y aura certainement une grève générale.
Cela fait près d'un mois qu'étudiants et enseignants occupent cette université qui a formé les plus grands cinéastes et metteurs en scène hongrois. Le 6 septembre, une chaîne humaine de 5 km se déployait depuis l'entrée du bâtiment. Se réjouissent Anna et Noura, deux étudiantes qui occupent les locaux.
C'est un mouvement vraiment global, surtout vu le nombre de soutiens. Des tas de gens qui n'ont rien à voir avec la fac prennent notre lutte à cœur et ressentent qu'elle vaut la peine d'être menée.
Pendant qu'on monte la garde dehors, des gens nous offrent toutes sortes de choses. Des enfants, retraités, de tous âges, ils nous disent « Allez les jeunes !» Ça nous booste beaucoup.
De l'autre côté de la rue, András est venu exprès avec sa petite amie Ulci pour exprimer sa solidarité avec l'école d'art dramatique et de cinéma. Pour lui, le gouvernement dépasse les limites dans sa volonté de contrôler l'enseignement supérieur.
Au-delà de cette école-là, le pouvoir essaie de mettre au pas d'autres universités. À un moment, il faut dire stop, et j'espère que ce mouvement servira à ça.
Profs et étudiants lisent des lettres de soutien reçues ces derniers jours. Kata, elle, est retraitée, mais depuis ses années de faculté, elle vient ici voir des pièces de théâtre et elle approuve le mouvement de résistance.
Nous sommes très en colère et nous ne comprenons pas l'intérêt de ce projet. Ce plan a été mené en catimini et veut transformer ce qui n'a pas lieu d'être changé.
Gyurgyu Korshoy, le professeur d'histoire du théâtre, est convaincu que ce mouvement aux airs de Mini 68, animé par la jeunesse, représente un véritable test pour le Premier ministre Viktor Orban, au pouvoir depuis 10 ans en Hongrie.
Si la jeunesse se lève contre ces tendances dictatoriales, alors ça peut créer vraiment des problèmes à grande échelle pour ce régime antidémocratique qu'il a établi en Hongrie et qu'il mène depuis des années.
Déterminés, les enseignants et étudiants de l'école de théâtre et de cinéma se disent prêts à poursuivre le combat tant que l'autonomie de leur université ne sera pas garantie. À Budapest, Joël Le Pavou, Europe 1.
Voilà une mobilisation qui s'ajoute à beaucoup d'autres ces dernières années en Hongrie face à une volonté de contrôle total du Premier ministre Viktor Orban. Pour aller un peu plus loin, on est en ligne avec Gwendoline Delbos-Corfield. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, de prendre le temps aujourd'hui pour décrypter avec nous. On va faire un point sur ce fameux état de droit dans l'Union européenne. Vous êtes députée européenne du groupe Vert et rapporteuse du Parlement européen sur la Hongrie, justement, pays à l'encontre duquel une procédure a été déclenchée il y a 3 ans pour risque de violation grave des valeurs de l'Union après des atteintes à l'état de droit, justement. La même procédure est en cours à l'encontre de la Pologne, qui a été plusieurs fois condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, dans ces pays, on voit une justice bâillonnée, des atteintes aux droits d'association, de réunion, d'expression, d'enseignement, on l'a entendu, des atteintes aux libertés de la presse. Et pourtant, on a l'impression que Budapest, Varsovie, Ljubljana, hein, on en parlait tout à l'heure, ne changent rien, voire accentuent leur mainmise. Pourquoi ce fameux article 7 pour la Hongrie et la Pologne n'a pas l'effet dissuasif espéré ?
Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est déjà que ça a pris du temps avant qu'il y ait une réelle prise de conscience. Et de ce point de vue-là, effectivement, le Parlement a été vraiment un des lieux où la prise de conscience a été la plus forte et la plus rapide. Mais encore aujourd'hui, ça a pris du temps pour que vraiment tout le monde se rende compte. Et à droite, notamment, longtemps, ils ont défendu. Il y a aujourd'hui des gens de droite qui ne défendent plus la Pologne et la Hongrie, notamment des Luxembourgeois, des Suédois. Donc même eux, ils se mettent contre finalement leurs propres collègues. Mais ça a pris du temps. La deuxième chose, c'est une raison très technique, qui est un problème plus récurrent et plus global dans l'Union européenne, c'est le problème de l'unanimité. Évidemment, Hongrie et Pologne ne vont jamais voter pour contre eux-mêmes. Donc oui. ça nous bloque beaucoup. Après, il y a un problème de courage politique. L'Union européenne fonctionne beaucoup, beaucoup sur un système de chacun donne sa partie. Toi, tu acceptes ça, moi j'accepte ça. Toi, tu fais des efforts
environnementaux. Moi, je fais des efforts économiques. Toi, tu fais des efforts sur ces... Et tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une problématique des pays d'oser entre eux s'affronter réellement. Il y a quelques pays qui sont en première ligne sur la question de l'état de droit et qui en font quelque chose de très d'indispensable, de très important. Mais beaucoup de pays sont encore trop silencieux.
Et l'article 7 permettrait d'aller plus loin, si je vous entends bien.
Dans l'article 7, il y a un certain nombre de dispositions qui ne sont pas aujourd'hui utilisées à plein, de petites sanctions symboliques, financières, de recommandations désagréables qui ne sont pas utilisées. On n'arrive pas pour l'instant à obliger les États à vraiment faire leur travail autour de cet article 7. Donc on dit qu'il n'est pas très bien, mais en fait, pour de vrai, on ne l'utilise pas comme il faut.
D'accord. Alors beaucoup, notamment au Parlement européen, mettent en avant la nécessité de conditionner les aides financières au respect de l'état de droit, ce qui serait un nouvel outil de pression sur ces pays. Alors au Conseil européen de cet été, en juillet, il avait été convenu de lier ces deux dossiers, hein, les finances et l'état de droit, dans le cadre de l'adoption du budget pluriannuel. Finalement, ça ne semble pas acquis, ça ne va peut-être pas se faire.
Non, c'est compliqué. Tout ça, encore une fois, quand la proposition a été faite, ça date de mai 2018, c'est une proposition de la Commission, elle parle le même jour, elle parle dans une même communication du nouveau plan budgétaire pour l'Europe de 5 ans qui s'appelle le MFF, et puis de cette conditionnalité à l'état de droit. Et le fait qu'elle les a liés ensemble a obligé en fait à ce qu'on étudie ce dossier dans ce cadre-là, cette conditionnalité dans ce cadre-là, et donc a obligé à l'unanimité parce que le budget de l'Europe se vote à l'unanimité. Et là encore, ça a coincé les choses et ça a mis dans les mains de Viktor Orban un pouvoir très très fort parce qu'en fait, il peut empêcher toutes les autres dispositions financières de ce plan.
Et donc le plan de relance.
Et donc le plan de relance et donc de l'argent qui est attendu par des pays qui sont aujourd'hui en difficulté à cause de la crise sanitaire et de la crise économique que ça a provoqué et du coup, qui seraient prêts à lâcher sur beaucoup de choses pour que l'argent arrive vite. Donc on lui a mis dans les mains beaucoup de pouvoir. On a cru au mois de juillet que les autres pays avaient réussi par diplomatie, parce qu'aussi Orban, il a aussi besoin de l'argent, la Hongrie et la Pologne ont aussi besoin de l'argent, ils ont cru qu'ils avaient obtenu un accord. Depuis lundi, Viktor Orban remet en cause, dit qu'il n'a pas topé, qu'il n'a pas cet accord-là. On ne sait pas, là maintenant on est un peu dans un contexte plus diplomatique, plus c'est entre États maintenant que ça va se juger, on ne sait pas si la proposition va arriver jusqu'à nous, sur nos bureaux véritablement, au Parlement et à la Commission.
Gwendoline Delbos-Scorfield, que faut-il attendre du tout premier rapport sur l'état de droit dans l'Union européenne qui doit être présenté, je crois, dans les prochains jours ?
Il faut en attendre beaucoup de bien d'un point de vue symbolique. Il est très important qu'aujourd'hui, la question des droits fondamentaux, de l'état de droit, de l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, toutes ces questions-là, soient au cœur de l'Union européenne et pas simplement les questions budgétaires, les questions est-ce qu'on gère bien son argent, la dette, etc., qui a longtemps été le cas. Il y a les questions environnementales aussi qui sont importantes, mais les questions d'état de droit sont aussi extrêmement importantes et aujourd'hui, elles sont au cœur de nos discussion régulièrement et ça c'est très positif et le fait qu'il va y avoir ce rapport rappelle que c'est quelque chose d'essentiel dans cette Union européenne, c'est ce qui nous constitue tous citoyens européens. Maintenant, ça restera un outil et ça restera un outil qui va aussi balayer tous les pays et il faut faire très attention du coup à pas tomber dans le relativisme qui consisterait à mettre sur le même plan des choses très très problématique et grave parfois qui se passe dans certains États mais de manière que dans un certain domaine ou de manière ponctuelle et puis une dégradation complète des droits des citoyens comme on est en train de le voir en Pologne et en Hongrie.
Merci beaucoup de ces explications, Gwendoline Delbos-Scorfield. Je rappelle que vous êtes députée européenne du groupe Vert et rapporteuse du Parlement européen sur la Hongrie. On continuera de suivre ce dossier de l'état de droit dans l'Union européenne comme on le fait régulièrement. Merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
C'est le moment d'observer le monde sous la plume d'un écrivain. Un livre dans le monde, c'est avec Nicolas Carreau. Bien le bonjour.
Bien le bonjour, Sophie.
Et c'est au Canada qu'on file retrouver l'auteur du roman que vous avez choisi, mais avec un membre de l'Académie française.
Mais qui n'est pas français.
Mais qui
n'est
pas français.
C'est Dany Laferrière, canado-haïtien. Ouais. Les éditions Zulma rééditent son premier roman. Il y a 35 ans. Et accrochez-vous pour le titre. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ?
Ah, il y a un mot qui a fait beaucoup de polémiques là, ces derniers temps. Ouais.
On va y revenir. En tout cas, le roman est génial. Le narrateur est un type un peu désœuvré qui vit à Montréal avec Booba, son colocataire à moitié fou, qui cite le Coran à chaque fois qu'il parle et qui passe le plus clair de son temps à dormir sur le sofa du petit appartement. Le narrateur, lui, s'est mis en tête d'écrire un livre, un roman, et ça tombe bien, il vient d'acheter une machine à écrire et le vendeur lui a dit qu'elle avait appartenu à Chester Himes, le grand écrivain écrivain, et quand il n'écrit pas, il drague des filles, des blanches en particulier, et il passe son temps à faire l'amour. Il les appelle par des surnoms, Miss Littérature, Miss Après-midi, à chaque fois un surnom qui correspond à leur trait de caractère plus ou moins. Alors je vous raconte ça, on pourrait croire que c'est amusant, et ça l'est, c'est très drôle, mais c'est aussi très violent et très cru, très court, tendu comme un arc. Il y a du Bukowski dedans, c'est sale, c'est irrévérencieux, mais poétique.
Et il a écrit ce roman dans quelles conditions alors ?
En exil. Dany Laferrière avait quitté Haïti et la dictature et il était à Montréal.
J'étais chômeur. Je travaillais un peu aussi dans des usines depuis 8 ans et j'avais voulu laisser tomber cela. Je me suis acheté une machine à écrire et je me suis dit aussi simplement que j'allais écrire un roman qui ne racontait pas Haïti ni la dictature que je venais de quitter, ni ma condition de chômeur, mais plutôt celle de lecteur et d'écrivain en herbe. Et c'est la lecture qui m'a sauvé. Et ce que je faisais à cette époque-là, c'est que j'allais acheter des livres et puis je me glissais dans une baignoire pour lire. C'est tout ce que j'avais besoin, avec une bouteille de mauvais vin.
Et le roman a marché ?
Mais oui, il a donné un coup de pied dans la fourmilière. Les romans étaient très policés à l'époque. Il est arrivé avec cet uppercut et sa carrière a immédiatement démarré. Et son secret, m'a-t-il confié, c'est qu'il s'est pris pour un écrivain. Comme le narrateur qui achète la machine à écrire de Chester Himes, il faut se prendre pour un écrivain pour le devenir.
La mythologie est fondamentale dans la littérature. Il faut faire semblant. Je me souviens qu'Hemingway disait, pour écrire, il faut avoir un sandwich et un verre de bière à côté de son carnet. Donc, il y a une mythologie importante. Il faut d'abord savoir qu'on est écrivain avant de commencer à écrire. Et ce n'est ni pendant, ni après. Pendant, c'est la souffrance, c'est l'angoisse, c'est le travail. Et après, on est déjà parti sur un autre livre. Donc c'est avant qu'il faut être écrivain, dans la posture de l'écrivain, sinon on n'y arrivera pas.
Il y a ce titre aussi, Nicolas, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Que pense-t-il du débat autour du mot « nègre » ?
Le mot maudit, eh bien, il n'en pense nègre, tout rien. Ça. Ah. En fait, le débat actuel ne l'intéresse pas, tout simplement parce que lui utilise ce mot à sa façon.
Et quand je l'emploie, ce n'est pas la même chose que quand un autre l'emploie. D'abord, pour une raison simple, en Haïti, le mot « nègre » veut dire « homme ». Parce que nous avons fait l'indépendance en Haïti après une guerre coloniale contre la France. Donc la question de la race n'a jamais été posée dans un sens d'infériorité. Et le mot « être un nègre », c'est la plus haute forme. Et c'est le citoyen. C'est-à-dire, on peut dire même « ce blanc est un bon nègre ».
Excellent. Vous nous conseillez donc ce roman ?
Absolument. Alors, ce n'est pas du Dany Laferrière qu'on a l'habitude de lire. Vous serez peut-être un peu désarçonné, mais c'est ça aussi un bon roman. Ça bouscule.
Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer chez Zulma. Évidemment, pas de traducteur, Dany Laferrière écrit en français. Merci Nicolas.
Merci Sophie Lachtel.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
On part faire un tour en Thaïlande où la révolte gronde. Un mouvement né il y a quelques mois dans les milieux étudiants. Ils étaient près de 50 000 personnes dans les rues samedi il y a 8 jours. Et ce week-end encore, ils sont là. Ils exigent le départ du gouvernement et de nouvelles élections. Mais au-delà, il réclame un changement profond du système de valeurs qui fonde la société thaï, sans hésiter à s'en prendre même à la monarchie. Que veut la nouvelle génération thaïlandaise ? Réponse avec Carole Izou à Bangkok.
Ils se rassemblent presque chaque fin de semaine depuis des mois au son de ce cri de ralliement « Prayut dehors ». Prayut, c'est le nom du premier ministre thaïlandais, arrivé d'abord au pouvoir par coup d'État en 2014, puis légitimé avec son gouvernement au cours d'un scrutin très controversé en 2019. La colère de la jeunesse contre ce gouvernement d'anciens militaires est désormais bien visible. Ils exigent son départ, de nouvelles élections, une nouvelle constitution qui offrirait moins de pouvoir à l'armée, mais aussi des réformes majeures du système éducatif. Pour Lekbank, un étudiant de 22 ans, il s'agit tout simplement d'essayer de réduire certaines inégalités de la société thaïlandaise.
Je suis là pour qu'on ait enfin une vraie démocratie. Une démocratie pour tous, pour le peuple, pas réservée à quelques-uns. Une sécurité sociale qui fonctionne, qui garantisse des soins de qualité à tous. Un système d'éducation qui ait du sens. Les étudiants thaïs ont de grosses lacunes par rapport à ceux d'autres pays à cause des méthodes. Et de la mentalité. Bien sûr, j'avais peur de venir. Mais quand je vois qu'on est là, tous ensemble, je n'ai plus peur. Je me dis que si on est nombreux, ils n'oseront pas utiliser la force.
La Thaïlande est classée parmi les pays les plus inégalitaires au monde. 1% de la population y possède 70% des richesses, selon un récent rapport du Crédit Suisse. Le système éducatif, sous-financé, utilise encore des méthodes comme les châtiments corporels. Aux côtés des étudiants, beaucoup de lycéens participent aussi. Ils souhaitent changer le rapport aux professeurs et voir s'assouplir les sévères règles de l'uniforme scolaire et des coupes de cheveux obligatoires à l'école. Le début de la négation des libertés individuelles, selon eux. Si la grogne couve depuis des années, le contexte de crise économique entraîné par les restrictions anti-Covid a favorisé l'éclosion de la révolte. Le mouvement se veut apolitique pour l'instant, mais certaines personnalités comme Thanathorn Rwangrungjuankit, perçu comme le chef de file de la jeunesse, ne manquent pas d'apporter leur soutien. Pour lui, l'économie et la démocratie doivent se soigner ensemble.
Le Premier ministre nous dit « Attendez, il faut d'abord résoudre les problèmes économiques, les problèmes du Covid. N'allez pas manifester, ça va faire du mal à votre pays. » Mais ça n'a rien à voir. Le Parlement a voté des budgets pour des mesures de relance de l'économie. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils les mettent en place. Résoudre la crise du Covid, c'est le travail du gouvernement. C'est eux qui ont le pouvoir. Changer la Constitution, c'est le travail du Parlement. Il faut arrêter de séparer les problèmes économiques et démocratiques. Au contraire, il faut s'attaquer aux deux en même temps.
La grande nouveauté de ces manifestations, c'est que les étudiants n'hésitent pas à s'en prendre à l'intouchable monarchie. Malgré la sévère loi de lèse-majesté qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour toute insulte à la couronne, le roi est vivement critiqué pour son manque de transparence dans la gestion de ses finances, ainsi que pour avoir choisi de vivre la plupart du temps en Allemagne. Dimanche dernier, les manifestants ont pris le contrôle du campus de l'université de Thammasat, un endroit très symbolique où est né le mouvement libéral qui mit officiellement fin à la monarchie absolue dans les années 30. Ils décident ensuite de poser une plaque commémorative qui rappelle que la Thaïlande appartient à son peuple et pas à son roi. Le moment est historique.
Nous, le peuple thaï ici rassemblé, nous espérons que notre pays respectera désormais le système démocratique et que la monarchie s'exercera enfin dans le cadre légal et politique de la Constitution.
Cette remise en question des fondements même de l'identité thaï n'est pas du goût de tout le monde. Sur les réseaux sociaux, la colère des ultra-royalistes monte. Dès le lundi matin, la plaque avait déjà mystérieusement disparu. Bangkok, Carole Izzo, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 avec Carole Izzo toujours, qui est là en ligne avec nous depuis la Thaïlande. Bonjour Carole.
Bonjour Sophie.
Alors on l'a vu, hein, au-delà du changement de gouvernement, ces jeunes réclament un changement de société. Finalement, le mouvement mûrit depuis des années. Pourquoi il explose maintenant?
Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Hein. D'abord la dissolution en février dernier du parti qui représentait la jeunesse, Nouvel Avenir. Il était dirigé par Thanathorn, qu'on vient d'entendre dans le reportage. Nouveau venu sur la scène politique, ce parti avait créé la surprise aux élections de 2019 en obtenant plus de 80 sièges à l'Assemblée. Mais rapidement devenu la bête noire des autorités, il avait fini par être dissous par la Cour constitutionnelle. Et puis il y a eu aussi en juillet l'enlèvement en plein jour à Phnom Penh au Cambodge d'un célèbre activiste thaï anti-gouvernement dont on n'a depuis aucune nouvelle. Enfin, il y a peut-être aussi la personnalité du nouveau roi Ramadis monté officiellement sur le trône l'année dernière.
Alors justement, ce roi directement mis en cause, est-ce qu'on sait ce qu'il en pense de tout ça, s'il est prêt à laisser faire des réformes?
Alors c'est toujours difficile de savoir ce que pense le roi parce que par définition, il ne s'exprime jamais sauf pour les cérémonies officielles et toujours en des termes cryptiques. On lui a reproché de s'être approprié une bonne part de l'argent public de la couronne. Il vit la plupart du temps une vie de luxe en Allemagne. Il est ouvertement polygame. Donc c'est vrai qu'il incarne en quelque sorte ces inégalités contre lesquelles se battent les manifestants. En même temps, il a lui-même indiqué qu'il ne souhaitait plus voir utiliser la loi de lèse-majesté, ouvrant ainsi un espace inédit de liberté d'expression dans son pays.
C'est un peu une révolte existentialiste que font ces jeunes là aujourd'hui d'une certaine manière.
pourrait dire ça, ou même individualiste, au sens où c'est une demande en faveur des libertés individuelles, inspirée, c'est vrai, des valeurs occidentales, liberté de s'habiller comme on veut, de dire ce qu'on veut. Les communautés LGBT, les groupes féministes sont aussi assez bien représentés. Une jeune femme est d'ailleurs montée récemment à la tribune pour réclamer le droit à l'avortement. Ça aussi, c'est une grande première dans ce pays bouddhiste. Alors bien sûr, pour beaucoup ici, c'est une négation de tout ce qui fonde l'identité thaï, l'adhésion, la loyauté à un groupe, avec au sommet la loyauté au pays et donc au roi.
On comprend en tout cas que c'est une réflexion de fond que portent ces jeunes manifestants en Thaïlande. On guettera l'évolution de cette révolte. Merci beaucoup Carole et à très bientôt dans les carnets.
À bientôt.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Tout le monde en a parlé cet été comme d'un symbole, la transformation de Sainte-Sophie en mosquée. Elle était un musée depuis 1934. D'autres anciennes églises ont été elles aussi transformées en mosquées. Mais plus qu'une simple motivation religieuse, c'est surtout une décision très politique du pouvoir nationaliste turc. Et ce n'est que le sommet de l'iceberg qui témoigne d'une volonté plus profonde d'effacement d'une certaine histoire. Une histoire qui ne servirait pas forcément le discours de la conquête ottomane. Du coup, les restaurations de ces bâtiments historiques se font souvent à la va-vite, au bénéfice d'édifices plus propres, entre guillemets, plus aseptisés. Je vous propose une balade dans la ville avec des amoureux d'Istanbul qui dénoncent la volonté du gouvernement d'effacer ces traces du passé. Notre guide, c'est Cerise Sudrilodu.
La décision a surpris tout le monde. Fin août, alors que beaucoup de Stambouliotes sont encore en vacances, le journal officiel turc publie un décret. Le musée Kora, une ancienne église décorée de dizaines de mosaïques, va être retransformé en mosquée comme au temps de l'Empire ottoman. Berker, guide officiel de la ville, est comme tout le monde pris de court. Apprenant la nouvelle sur les réseaux sociaux le matin même, il décide d'organiser toute la journée des visites gratuites de l'édifice pour protester.
Kora, ça représente beaucoup de choses pour notre pays, parce que c'est un patrimoine mondial. Et aussi, nous avons des mosaïques très très rares et très bien préservées à l'intérieur. Et ça n'existe même plus dans d'autres églises orthodoxes, même en Grèce. Donc c'est vraiment, c'est un trésor. Ici, nous avons plus de mosaïques que Sainte-Sophie.
La fameuse Sainte-Sophie sur la même rive, c'est l'un des monuments les plus visités d'Istanbul. Une ancienne basilique chrétienne devenue mosquée au XVe siècle, puis transformée en musée par Atatürk, et à nouveau convertie cet été en mosquée. Là-bas, les tapis de prière ont déjà été disposés, les femmes doivent se couvrir pour entrer, et les représentations du Christ et de la Vierge ont été recouvertes par des draps blancs. La conversion du bâtiment a choqué dans le monde chrétien, mais ici, certains sont au contraire venus spécialement voir la conversion de leurs yeux, agitant des drapeaux turcs, répétant à qui veut l'entendre qu'ici, c'est la Turquie. Ils sont parfois rentrés pour la première fois dans le bâtiment. Rebelote quand un mois plus tard, le gouvernement annonce la conversion de Kora, Berker se désole.
Si on convertit cet endroit dans une mosquée, ça ne va qu'une mosquée très petite, une mosquée d'un petit quartier, qui peut entrer, je ne sais pas, comme 50-60 personnes au maximum. Et avec les conditions de pandémie, peut-être la moitié, comme 30. Donc, on a vraiment besoin de ça? On ne pense pas.
Dans Istanbul, où les bruits de marteau-piqueurs sont permanents, les offensives du pouvoir sur les bâtiments historiques, qu'ils soient religieux ou pas, sont nombreuses. Et on ne s'étonne plus de voir des climatiseurs logés dans des fenêtres richement ornées ou des échafaudages faisant des trous dans des murs centenaires. Pour certains, aucun doute, il y a là une volonté politique d'effacer une certaine histoire, principalement non-ottomane. Zeynep Aounbay est une professeure renommée en architecture. Elle a longtemps travaillé à la restauration de bâtiments historiques et nous donne justement rendez-vous sur la place Taksim, le cœur de la ville moderne et centre des protestations de 2013. Une place qui a beaucoup changé ces dernières années, notamment avec l'apparition d'une immense mosquée à l'arrière-plan. Elle est en construction depuis bientôt 2 ans. Pour Zeynep Aounbay, la transformation de la place est un peu à l'image de la ville.
La restauration, ce n'est pas qu'une technique. Il faut aussi préserver l'histoire et ça, ça demande de l'expertise. Donc si vous confiez votre chantier à une entreprise qui ne comprend pas ce qu'elle fait, elle fera attention aux détails techniques, mais pas aux détails et à l'histoire. Nous avons travaillé à la mosquée de Zeyrek, par exemple. Et comme c'est aussi un édifice byzantin, nous avons trouvé des mosaïques de l'époque médiévale et des personnes religieuses étaient inquiètes qu'on la transforme en musée. Alors notre chantier a été arrêté. Et d'une certaine façon,
Cela permettait de mettre en avant l'identité ottomane du bâtiment.
À Istanbul, comme dans le reste de la Turquie, les restaurations de monuments sont souvent moquées tant elles sont grossières. Un internaute s'est même chargé de répertorier les fautes de goût. Il a créé le compte Twitter Istanbul la moche et publie des photos de la ville défigurée, comme la vitrine criarde de ce commerçant construite sur un bâtiment historique ou des fous sur des ruines centenaires laissées à l'abandon. Et quand je montre les photos à Zeynep Aounbay, elle sourit.
C'est une ville si précieuse. Il faut la soigner comme si on travaillait un bijou, un diamant, en la nettoyant avec soin et en la faisant briller. Pas en en faisant quelque chose de moche.
Un conseil que les entreprises de restauration à l'œuvre à Istanbul semblent ne pas avoir entendu. Cerise de Rebu, Istanbul, Europe 1.
Retour en studio et Cerise Sudri-Ledieu est en ligne avec nous depuis Istanbul. Bonjour Cerise.
Bonjour Sophie.
Alors comme ça, Istanbul est en train de devenir moche ?
Alors non, Sophie, Istanbul dispose toujours d'énormément de trésors architecturaux, des bâtiments splendides. Et il suffit de faire un tour sur le Bosphore au coucher du soleil pour se dire qu'on a de la chance. Mais pour autant, cette modification en profondeur de bâtiments de la ville est réelle. Et la rhétorique très conquérante du gouvernement est frappante. Il réécrit parfois l'histoire pour que celle-ci corresponde à la version qu'il veut donner. Et très souvent, les intérêts des professionnels du bâtiment prennent le pas sur l'intérêt historique. Il n'est pas rare de voir ici une fontaine du Xe siècle à côté d'un kebab, par exemple. Berker, notre guide, m'a cité par exemple le cas de la mosquée de Souleymaniye, construite au XVIe siècle par l'architecte Mimar Sinan. Alors qu'elle était réputée pour son acoustique, voilà 10 ans qu'elle n'a plus le même son, car les restaurateurs n'ont pas utilisé les bons matériaux. Dernier exemple en date, certains murs intérieurs de la tour de Galata, qui est une construction médiévale et un symbole de la ville, ont été attaqués au marteau-piqueur par des ouvriers.
Là, on entend le son de cette vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Les murs d'une construction médiévale attaqués au marteau-piqueur, c'est du vandalisme. Personne ne s'indigne, Cerise ?
Alors si, quand même, la vidéo a fait scandale sur Internet et la municipalité qui est dans l'opposition au parti d'Erdogan a répliqué dans l'instant. Mais la gestion de l'édifice et donc sa restauration est du ressort du gouvernement. C'est donc le ministère de la Culture qui gère sa restauration, épaulée par une fondation. Alors suite au scandale, il a indiqué que l'usage du marteau-piqueur sur un bâtiment historique n'était pas acceptable et serait sanctionné. Il a aussi assuré que les ouvriers démolissaient des structures récentes et pas les murs originels.
Et on est sûr de ça ?
Alors il faut les croire sur parole, car le personnel de la ville n'a pas le droit d'y aller pour vérifier. Le directeur du patrimoine à la ville d'Istanbul m'a indiqué que depuis la publication de la vidéo il y a un mois, la ville a porté plainte pour récupérer la gestion du bâtiment. Et certains journaux d'opposition affirment en tout cas que les travaux sont réalisés par une entreprise proche du gouvernement. Alors si tout va bien, la tour rénovée entre guillemets devrait rouvrir ses portes début octobre. Et ce sera alors de vérité l'occasion de constater aussi tout ça de nos yeux.
Voilà, merci beaucoup en tout cas Cerise pour toutes ces précisions. Et puis pour cette balade au milieu des merveilles d'Istanbul. On a fait un voyage par procuration grâce à vous aujourd'hui. Merci, à très bientôt dans les carnets.
Au revoir Sophie.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Il est philosophe, autiste Asperger et surtout amoureux des voyages. Comme chaque dimanche, Joseph Chovanec nous rejoint pour clore les carnets. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous avez encore craqué sur une journée mondiale. Oui. Enfin celle-là, elle est vraiment pour vous, c'est la journée mondiale du tourisme.
Oui, elle a lieu aujourd'hui, même ce dimanche. Encore le tourisme, vous me direz. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du tourisme ces derniers temps, au point d'ailleurs que ce soit devenu assez mal connoté avec un phénomène de saturation mentale.
Tourisme de masse.
Voilà, de nausée. Mais il y a tout un pan de la question dont on ne parle pas. C'est le tourisme des gens d'ailleurs, non pas ceux des Européens. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé où partait en vacances, mettons, un villageois de Tanzanie, un Iranien ou alors un Maori de Nouvelle-Zélande ?
Moi non, mais oui, vous apparemment.
Cette question m'a beaucoup trotté en tête. Et parfois, on entend dire que seuls les Occidentaux partent en vacances. Et ça me met en colère. C'est faux à mon avis. Et il est vrai que les passeports non occidentaux compliquent le voyage, mais les gens sont malins et ils finissent par trouver mille et une astuces pour parvenir à leur fin. Par exemple, demander le visa d'un autre pays de la zone Schengen pour venir en France, etc. Et à l'inverse, il y a des passeports occidentaux qui théoriquement permettent de beaucoup voyager, mais dont le propriétaire ne fait nul usage. Donc ça ne sert à rien. Dans beaucoup de cultures, il y a un pays emblématique des destinations touristiques, une sorte de destination destination par excellence, ouais, à laquelle tout le monde pense dès qu'il est question de vacances.
Alors, vous avez des exemples en tête ?
Oui, par exemple, pour les Omanais, c'est clairement Zanzibar. Là, ce sont des raisons historiques, parce qu'il y a quelques décennies encore, Zanzibar était la capitale omanaise. Pour les Iraniens, généralement, le pays des vacances lointaines et réussies, c'est la Malaisie. Je me suis beaucoup demandé pourquoi, après tout, ce sont deux cultures, deux pays extrêmement différents. Mais peut-être justement à cause de cela, on rêve de ce que l'on n'a pas en termes de climat, par exemple. Alors, les Saoudiens, quant à eux, ils aiment à citer les Maldives comme paradis touristique, et je crois qu'il est difficile de faire plus opposé que les déserts d'Arabie et les atolls océaniens des Maldives.
Bon, mais alors là, vous citez les Maldives, la Malaisie, on imagine, on voit des vacances à la mer, les plages. Est-ce qu'on cherche tous la même chose quand on voyage ?
Pas les plages, à mon avis, Sophie, hein, parce que je crois que la réponse pourrait être plus universelle qu'on ne le croit, c'est rencontrer des gens. Hein. Ouais. Et quand je repasse en mémoire toutes les réponses que j'ai entendues à travers le monde, je crois que c'est la meilleure façon de les résumer. Alors bien sûr, les détails, les modalités, tout ça, ça varie. Hein. Les gens que l'on veut rencontrer, ce peuvent être des membres de la famille plus ou moins lointaine. Par exemple, chez les peuples semi-nomades dans le Grand Nord, en Asie centrale, ces grandes familles-là ne se voir réellement qu'à certains moments de l'année. Ouais. Ou alors, ce peut être un lien plus ou moins intellectualisé. Par exemple, beaucoup d'Iraniens rêvent d'aller en Allemagne parce qu'ils pensent que les Allemands et les Iraniens ont des racines communes. Ou alors, les artisans du Moyen-Orient rêvent souvent de rencontrer leurs homologues d'Afrique ou vice-versa. Okay. Je n'oublierai jamais l'enthousiasme que dégageait un éminent calligraphe de Téhéran quand je lui avais rendu visite un jour. Il m'avait raconté avec beaucoup d'émotion ses rencontres avec ses collègues calligraphes d'Extrême-Orient et comment l'un d'eux japonais s'était mis à pleurer. Hein. Le calligraphe iranien y avait vu la preuve ultime de l'universalisme de son art et de la notion de beau.
Et parfois, on peut juste être curieux en voyageant.
Voilà, vouloir savoir comment vivent vraiment les habitants dans tel ou tel pays lointain. Et je crois que ce point-là joue beaucoup plus souvent qu'on ne le croit dans les décisions d'émigration, légale ou pas, hein, des pays pauvres vers l'Europe. Parce qu'on a beau avoir lu des textes, vu des photos, tant qu'on n'a pas mis les pieds, mettons, dans un village pygmé au Cameroun ou alors en Europe, on ne comprend pas à quoi ça ressemble et ce qui s'y passe. En somme, je ne pense pas qu'il y ait tant de différences que cela entre les humains pour ce qui est des voyages touristiques. Cela me fait penser d'ailleurs à ce dicton arabe classique « Al-jinna bidun nas, la tu das ». Ne va pas au paradis où il n'y a pas d'être humain.
Très joli. Bon, en tout cas, en cette journée mondiale du tourisme, on peut se dire sans doute qu'on voyagera différemment hein, à l'avenir.
On peut-être, n'a pas le choix.
Voilà, peut-être moins loin, moins tassé, et de manière plus respectueuse du climat, plus équitable. Merci beaucoup, Joseph, grand chef des touristes. À dimanche prochain.
À tout bientôt.
Et voilà, c'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés encore aujourd'hui. Je passe le témoin à Nicolas Carreau dans quelques instants. La Voix et Livre va débuter. Nicolas, quel est le programme aujourd'hui ?
Je reçois l'écrivaine Véronique Olmy. On l'avait quittée, vous vous souvenez, avec Bakita. Oui. Très, très beau roman. Énorme succès il y a 2 ans. La revoilà avec Les Évasions particulières, qui est une sorte de fresque des années 70. Venez voir.
La Voix est Livre, c'est dans quelques minutes. Très bonne émission. Merci à Marc Fréjean qui a réalisé ces carnets, à Florence Gimalac et Marion Gauthier qui l'ont préparé. Et au passage, on souhaite bon vent à Florence qui bichonne les carnets depuis 2 ans et s'apprête à filer vers de nouvelles aventures, qu'elles soient pleines de rencontres, de voyages et de découvertes. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous évidemment dimanche prochain dès 13h. D'ici là, portez-vous bien.